Bonjour. Donc, après l'introduction générale du cours précédent, il nous faut aborder aujourd'hui d'autres généralités. Cette fois sur la culture de la fin de l'époque d'Edo, qui fut le cadre de l'activité intellectuelle de notre protagoniste de cette année, Motoori Norinaga. Je prends l'époque d'Edo au sens large, vous allez voir, enfin, c'est-à-dire vraiment, comme vous, je répète pour que Norinaga est né en 1730 et pas en 1750. Vous voyez qu'il est mort au tout début du 19e siècle, ce qui est la toute fin de l'époque d'Edo, mais je parle d'un contexte qui s'étend grosso modo de 1750, même avant d'un certain côté, jusqu'à 1850 et au-delà. Enfin. Donc sa vie couvre les deux tiers du XVIIIe siècle japonais. Il convient donc de décrire brièvement cette époque si riche et si originale dans l'histoire riche et originale de la culture japonaise. Cela sera utile à tout le monde, car c'est précisément cette époque et le demi-siècle qui la suit qui constitueront pour les Japonais modernes ceux du XXe siècle et ceux du XXIe siècle qui s'en soucient encore, l'ancien Japon imaginaire, bien plus que celui de Heian, pour la raison évidente qu'ils en étaient dans une large mesure les héritiers directs. Il suffit d'aller au Japon, de regarder la télévision, les feuilletons, etc., pour voir que pour les Japonais, en réalité, l'histoire japonaise, les représentations concrètes de la culture japonaise matérielle, c'est l'époque d'Edo. Et d'ailleurs, si on voulait aller jusqu'au bout d'une représentation réaliste de l'époque de Heian, tout le monde serait extrêmement étonné. Donc ce sont les institutions d'Edo qui étaient ce sur quoi et contre quoi les réformateurs de Meiji ont édifié le nouveau Japon de leur époque. Redisons-le une fois encore, pour ce qui est de la langue au moins, cette dernière partie de l'histoire, disons, indépendante du Japon, c'est-à-dire où le Japon était relativement indépendant de l'influence massive de l'étranger non chinois ancien, cette histoire indépendante, donc, que l'on pourrait décrire en exagérant à peine comme la longue période où le royaume ne fut sous la domination politique d'aucune puissance extérieure, et qu'il fut donc libre d'accueillir et de réinterpréter à sa guise l'apport extérieur, en bonne logique occidentale, qui aurait dû se caractériser de façon... Donc l'évolution de la période aurait dû se caractériser de façon inverse à celle qui se manifesta en réalité si on suivait la logique historique, disons, occidentale. Nous avons vu que l'histoire langagière de l'Europe semble suivre une flèche à la trajectoire rectiligne, allant de la domination d'une seule grande langue sapientielle, je reprends ce terme de Roger Bacon, repris aussi par Irène Rosier-Cattache et notre collègue Benoît Grévin, donc d'une seule grande langue sapientielle, le latin, vers la multitude des langues nationales. Pour citer celle qui compte le plus dans le Japon moderne, il faudrait faire d'ailleurs tout un cours là-dessus, l'anglais, le français, l'allemand et le russe. Il ne faut pas oublier l'importance du russe dans le Japon de la fin du XIXe siècle. Et n'oubliez pas qu'à partir du XVIIIe siècle, la Russie fut peut-être le pays où la connaissance de la langue japonaise était la plus approfondie pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous donner ici, mais qui étaient donc, dès la Grande Catherine, la première grammaire de langue japonaise faites par quelqu'un d'autre qui a les missionnaires, et ont été faites en langue russe. Et en retour, le russe a eu une grande importance littéraire et culturelle à la fin de l'époque de Meiji, à la fin du XIXe siècle. Donc, le Japon aurait dû faire la même chose et rejeter peu à peu le chinois classique, le kanbun, de son horizon d'écriture pour ne plus cultiver que sa langue nationale. Or, il n'en fut rien, et la fin de l'époque d'Edo vit s'épanouir la culture japonaise, sino-japonaise, comme jamais auparavant. Cette époque est probablement celle où s'est écrite la plus grande masse d'écrits en kanbun de toute l'histoire du Japon. Il se peut même, selon certains historiens, que la littérature en kanbun, prise en son sens le plus large, bien sûr, est dépassée tout simplement par la taille des écrits en japonais. même la poésie, même et surtout la poésie, ce simple fait devrait servir d'exemple et de leçon aux historiens des langues qui tiennent pour inéluctable l'évolution vers l'emploi de la langue parlée aux dépens des langues sapientielles. Ce n'est pas exclusif, d'ailleurs. À la fin de l'époque d'Edo, se développe une littérature japonaise drôlatique en langue parlée, enfin, vous connaissez tout cela, qui est parallèle au redéveloppement de la littérature sino-japonaise. Vous avez les deux extrémités, en quelque sorte, de la palette culturelle qui se développe de façon inouïe. Il se peut sans doute aussi que plus qu'aux autres époques soit venu s'ajouter en faveur de l'emploi du chinois classique l'argument du caractère cosmopolite de cette langue. Les communications avec la Chine, en dépit de l'isolationnisme dont on relative maintenant tout à fait la portée, et avec la Corée, ces relations donc s'étaient renforcées, étaient plus faciles et mieux gérées, et donnaient l'occasion à de nombreux échanges littéraires. Pour prendre l'exemple des ambassades de Corée, ce qu'on appelle le Chosen Tsushinshi, n'est-ce pas, l'envoyé de Corée, ces ambassades de Corée qui eurent lieu une douzaine de fois du début du XVIIe au début du XIXe siècle, c'est l'inverse des Kentoshi, n'est-ce pas, de l'époque de Nara et de Heian, si vous voulez. Donc ces ambassades de Corée, ces longs cortèges hauts en couleur, il y a beaucoup d'illustrations, je vous en donne l'une des dernières. Ces longs cortèges hauts en couleur de plusieurs centaines de fonctionnaires coréens qui se rendaient à pied et les plus nobles à cheval, mais accompagnés de subordonnés, de serviteurs qui n'avaient pour toute monture que leurs genoux, comme dit l'expression japonaise « kiza korige », n'est-ce pas ? Qui se rendaient donc d'Osaka à Edo, en plusieurs semaines, faisaient de leurs étapes quotidiennes, puisqu'évidemment, il y avait des étapes, c'était largement à pied, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez qu'il y avait une vingtaine de kilomètres par jour. Donc, chaque étape quotidienne était le rendez-vous des lettrés et intellectuels de chaque localité, avides d'échanger avec eux des poèmes et des conversations au pinceau, shitsudan. Il y a toute une littérature à recueillir. On commence à la recueillir sur ces conversations au pinceau faites lors de ces délégations coréennes. C'était un grand événement culturel, en plus du côté folklorique, n'est-ce pas ? Donc, que l'on me permette à ce propos, encore une digression, j'en suis désolé, mais il faut la faire, que l'on me permette à ce propos de rappeler qu'il n'y a pas pour nous d'antagonisme entre le concept de langue cosmopolite, avec l'ère d'influence dont cette langue est le centre, et le concept de hiéroglossie et d'air hiéroglossique. Il n'y a pas d'antagonisme, parce qu'il arrive souvent, très souvent, que les deux phénomènes se superposent. La même langue peut être à la fois cosmopolitaine, n'est-ce pas ? Pour rendre en français, c'est le terme que j'utilise pour rendre en français le cosmopolitan language développé par Sheldon Pollock. Et donc la même langue peut être à la fois cosmopolitaine et hiéroglossique, selon les sphères où on l'emploie. Il suffit de penser à l'exemple du sanskrit et de l'arabe pour s'en convaincre. Pour reprendre le cas du sanskrit, qui nous concerne quand même un peu, même beaucoup, on pourrait remarquer que les deux dimensions, si elles sont superposables dans l'abstrait, sont assez clairement, à mon avis du moins, il faudrait demander l'avis de vrais indianistes, sont assez clairement distinguées dans la réalité par l'aire d'utilisation de chaque fonction. On peut dire que le sanskrit est langue cosmopolitaine, plutôt que cosmopolite, puisque à l'intérieur de l'Inde. Cela n'apparaît paradoxal que si l'on oublie que l'Inde n'est pas un pays, au sens où nous l'entendons en Europe, mais un monde en soi, divisé en de nombreuses aires linguistiques et d'innombrables aires de langues minoritaires. Depuis les environs du début de l'ère chrétienne, du nord au sud du sous-continent, le sanskrit a été non seulement la langue sacrée des textes révélés, des Védas, de leurs commentaires, des traités religieux, de la philosophie, mais aussi la langue de la grammaire, de la logique, des mathématiques, de la médecine, de l'architecture et des techniques et des autres techniques qui permettaient dans ces domaines une intercompréhension interrégionale. Il y a aussi la fonction épigraphique du sanskrit. Je... En voici un exemple d'une inscription khmer à Siem Reap, n'est-ce pas, enfin à Angkor, donc une inscription en lettres cambodgiennes, mais en langue sanscrite. Cette fonction épigraphique qui commence bien souvent l'absence de littérature historique que l'on impute à cette langue. De ce point de vue, il est intéressant de comparer le sanskrit, qui est bien évidemment lié aux religions indiennes, brahmanisme, hindouisme, bouddhisme, jainisme, à la langue qui a pris sa place dans les milieux apparus à la suite des grandes conquêtes musulmanes turques, Chagatai du XVIe siècle, qui furent à l'origine de la dynastie moghole, donc à savoir le persan. Cette langue n'a fait que prolonger en Inde le rôle qu'elle assurait en Asie centrale et en conséquence repris le rôle cosmopolitain du sanskrit, mais dans les régions acquises à la religion musulmane seulement. Et enfin, évidemment, il faut nuancer tout cela. Nous avons donc en Inde, à partir du XVIe siècle, deux langues cosmopolitaines, le sanskrit et le persan, un état qui perdurera jusqu'au début du XXe siècle, où elles seront remplacées par l'anglais. En revanche, en dehors du sous-continent indien, il me semble que le rôle du sanskrit, en tout cas dans la proportion la plus large, ne relève plus du cosmopolitanisme, mais essentiellement de la hiéroglossie. L'ère hiéroglossique du sanskrit, c'est-à-dire les régions de l'Asie où le sanskrit est considéré comme la langue sacrée et sapientielle de référence, s'étend du Tibet et de la Mongolie jusqu'à Java et au Japon. Je vous donne ici deux exemples de lettres sanskrites, des bonji donc au Japon. Là, vous avez la célèbre stance sur les Yedharma et Tuprabhava, n'est-ce pas, sur la cause de la production des dharmas a été prêchée par le bienheureux, et la destruction de la cause et de ses dharmas a été exposée par lui, le grand Shramana. Les derniers mots, n'est-ce pas, la dernière ligne, Mahashramanaka, c'est-à-dire le Bouddha lui-même, n'est-ce pas. Et ici, vous avez une célèbre Dharani, aussi en Bonji, donc utilisée au Japon. Donc, vous voyez, et je vous mets ici pour mémoire un merveilleux, enfin, il est un peu aride pour ceux qui ne s'intéressent pas au sujet, mais il est quand même extraordinaire. Sanskrit in Indonesia, le grand livre de Yann Gonda, n'est-ce pas, où il fait un panorama extraordinaire de l'implantation, qui n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au Japon, bien sûr, l'implantation profonde du sanskrit dans les langues indonésiennes et le javanais en particulier. Cette hiéroglossie sanscrite existe à des titres divers selon les régions, et l'on ne saurait comparer, pour prendre les deux derniers exemples, la place du sanscrit à Java et au Japon. Disons pour simplifier qu'au Japon, la place du sanscrit est largement symbolique, comme je vous l'ai montré, limitée, et à une partie du vocabulaire bouddhique, qui a pu se divulguer dans la langue ordinaire. Tous ces termes, n'est-ce pas, Nehan le Nirvana, Bodhi l'éveil, Bosatsu le Bodhisattva, Ashura le titan, l'Asura, sont devenus des termes pratiquement de langue ordinaire, mais aussi aux lettres brahmiques, donc au Bonji, dont le symbolisme est encore plus évident. À Java, en revanche, le sanskrit a eu un rôle infiniment plus dynamique. Les textes étaient recopiés, traduits, condensés, ou paraphrasé en langue javanaise, laquelle, dans son état médiéval, était aussi imprégnée de vocabulaire sanskrit que le japonais l'était du lexique chinois. On ne peut oublier non plus l'importance de l'épigraphie sanskrite, qui couvre toute l'Asie du Sud-Est, dans les régions de culture khmer, ou Cham, au Vietnam actuel, enfin, Cambodge et Vietnam, où la connaissance du sanskrit est incommensurable avec ce qu'elle fut au Japon. La grande qualité de la connaissance du sanskrit dans ces régions est d'autant plus extraordinaire qu'elle ne repose sur aucun socle vernaculaire. Mon ignorance m'oblige ici à spéculer, mais il semble que la nature même de ces élites sanskritisantes reste encore mystérieuse des spécialistes eux-mêmes. Qui donc dans ces royaumes, au Cambodge, dans le royaume du Champa, pouvait bénéficier d'une éducation du niveau d'un pandita indien ? Il y avait une émigration indienne, évidemment. Il y avait des familles de brahmanes qui étaient là. Mais aussi, qui, dans ce que l'on pourrait appeler le public, était en mesure de comprendre ces inscriptions littéraires ? Les relations avec les royaumes indiens ne semblent pas avoir été assez fréquentes ni suivies pour justifier la culture du sanskrit comme langue cosmopolite, comme langue cosmopolite, transmise dans des réseaux politiques ou scientifiques. On peut donc dire que dans la Grande Inde, ce qu'on appelle la Grande Inde, un terme qui est parfois critiqué maintenant, le monde indien hors de l'Inde, la langue sanskrite n'a pas du tout le même statut qu'en Inde même, où elle cumule le double rôle de langue cosmopolite et de hiéroglosse, pour ne garder que son statut hiéroglossique et irriguer les langues vernaculaires à l'extérieur. Nous voyons donc qu'une même langue peut être à la fois... Je voudrais aussi faire une toute petite allusion à un phénomène qui n'est pas suffisamment pris en considération, que l'on commence à étudier maintenant de façon globale, mais malheureusement d'un point de vue qui ne me semble pas... pas fructueux, dans la mesure où pour moi ce phénomène est à considérer avec la hiéroglossie. C'est ce qu'on appelle, alors ce n'est pas moi heureusement qui ai inventé le terme, il existe depuis assez longtemps, c'est ce qu'on appelle la hiérographie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le fait de conférer un caractère, c'est comme la hiéroglossie, sauf qu'on prend en compte que les termes écrits, alors vous voyez d'ailleurs que la langue chinoise, la langue et l'écriture chinoise qui s'entremêlent, rendent le concept, la différenciation du concept pratiquement impossible, mais elle existe. Je viens de faire allusion à l'Inde. On ne peut pas nier, malgré tous les mouvements actuels et les contre-mouvements, que le sanskrit a été la langue de l'ensemble de l'Inde. Et je vous dis, elle est encore en arrière-plan sonore et graphique du Japon. C'est pour ça que je vous parle si souvent du sanskrit. Mais en Inde, c'était une langue orale. Les Védas étaient récités oralement et elle était notée par écrit selon les écritures des différentes régions. Et parfois, avec chaque version, par exemple le tamoul, avait l'écriture de la langue tamoul et une écriture un peu spéciale pour le sanskrit qu'on appelle le granta. Donc il y avait une différenciation aussi. La différenciation était régionale, mais cette différenciation graphique reflétait une union linguistique, n'est-ce pas ? Or, maintenant, il y a aux États-Unis spécialement, il commence à prendre son essor, une prise en compte de l'univers graphique des langues. Un linguiste américain du nom, enfin, c'est plutôt qu'un linguiste, c'est un spécialiste du comparatisme des littératures, du nom de David Damrosch, je crois qu'il est professeur à Harvard, a lancé le terme, alors, bon, chacun y va de son néologisme, je ne peux pas critiquer, j'en ai fait aussi, mais il a lancé le terme de script world, n'est-ce pas, c'est-à-dire le monde scripté, le monde d'écriture, sauf qu'en anglais, le script est beaucoup plus concret que l'écriture ici. Et il essaye de refaire l'histoire culturelle de l'emploi des différentes écritures pour refaire une ère particulière à tel ou tel domaine d'écriture. Malheureusement, il ne tient pas compte de ce système de référence qui est aussi sacré, n'est-ce pas ? L'exemple le plus banal serait par exemple le yiddish. Enfin, contrairement à ce que dit Isaac Singer, le yiddish est quand même largement de l'allemand. Mais c'est en utilisant l'alphabet hébreu qu'il entre dans la sphère hiéroglossique hébraïque, n'est-ce pas ? Lorsqu'on imprime des textes en yiddish en caractère latin, eh bien, on retrouve un dialecte allemand avec quelques particularités de vocabulaire. Il est très difficile de faire le départ entre hiéroglossie et hiérographie. Et comme on va de plus en plus parler de ces problèmes maintenant, puisque le mouvement est lancé aux États-Unis, ça va bientôt venir en France. Damrosch a fait déjà des émules dans d'autres aires culturelles, comme le Vietnam en particulier. Alors, enfin voilà, j'attire votre attention là-dessus, et pour vous dire qu'il va falloir reprendre le problème de façon globale. Nous voyons donc qu'une même langue peut être à la fois cosmopolite et hiéroglossique, et qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre les deux rôles. On pourrait même dire que les deux rôles sont liés. Une hiéroglosse, une langue sacrée et sapientielle, peut devenir langue cosmopolite, comme l'arabe. Une langue cosmopolite peut devenir hiéroglosse, comme le latin, lorsqu'il cessa d'être langue d'empire pour être la langue de l'Église catholique. Enfin, il ne faut quand même pas trop simplifier, car il garda aussi largement son statut de langue cosmopolite au Moyen-Âge, à la Renaissance et une partie des temps modernes. Mais vous voyez, les rôles sont fluctuants. Donc le chinois classique s'inscrit lui aussi dans cette double dimension hiéroglossique et cosmopolite. Il l'a toujours été au Japon dès l'origine. Langue diplomatique d'une part, utilisée pour les contacts avec la Chine, je vous donne cette anecdote que vous connaissez douce, n'est-ce pas ? Langue diplomatique d'une part utilisée pour les contacts avec la Chine et le continent extrême asiatique, et nous en avons de nombreux témoignages, comme la fameuse lettre envoyée par la cour du Japon au souverain Yodai, en japonais on dit Yodai, l'empereur Yang des Sui, donc, c'est une lettre qui a été faite à l'époque de Shotoku Taishi. Est-ce Shotoku Taishi qui l'a rédigée ? Enfin, ce souverain chinois a régné jusqu'en 618. Shotoku Taishi est mort en 622, comme vous le savez, donc, et ça a été fait par la chancellerie impériale. Elle a été consignée dans un texte chinois, le livre des Sui, n'est-ce pas ? Zuisha, en japonais. Et dans le Wakokuden, le mémoire sur le pays des Wa, et vous voyez la formulation de la lettre envoyée. Donc là, nous sommes vraiment, c'est pas le chinois comme langue hiéroglosse, comme langue sacrée, c'est le chinois comme langue diplomatique. Et pour le coup, c'est pas très diplomatique, n'est-ce pas ? Comme vous, enfin, tout le monde connaît ce mot. Shino izuru tokoro no tenshi, shou shino bossuru tokoro no tenshi ni. Itas, Toganashi, hein, n'est-ce pas ? Donc le fils du ciel, n'est-ce pas ? Le Tenshi, le fils du ciel de l'endroit où le soleil se lève, envoie cette lettre au fils du ciel de l'endroit où le soleil se couche. Bon, alors, Tsuganashi, ça va bien chez vous, enfin, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? L'empereur chinois, d'abord, de voir que le souverain du Japon s'arrogeait le titre de Tenshi comme lui, et qu'en plus il y avait la hiérarchie entre le pays qui le soleil levant et le soleil couchant, évidemment ça l'a défrisé, et il a dit bon, maintenant nous aurons moins de contact avec ces gens-là. Il y en a quand même eu après à sa cour, mais enfin vous voyez que là c'est le chinois vraiment comme langue diplomatique. On édulcore d'ailleurs la portée non diplomatique de cette formulation en se référant au fait que c'est en réalité une citation, c'est une citation d'un texte bouddhique. Alors, bon, il se peut qu'il n'y ait pas eu. Mais quand même, Tenshi, le pays où la région où le soleil se couche et la région où le soleil se lève. Donc, ce sont simplement des paraphrases littéraires pour Orient et Occident, bien sûr. Mais c'est l'emploi de Tenshi, surtout, qui fait problème ici. Donc, et puis on a aussi des échanges avec le royaume de Pekche, n'est-ce pas, de Kudara, etc. On a la lettre du souverain de Kudara lorsqu'il envoie cette espèce de kit d'objets bouddhiques au Japon en disant voilà, c'est maintenant à la mode, si vous voulez être dans l'air du temps, il faut cultiver cette religion. Donc, dans ces divers cas, le côté utilitaire et cosmopolite du chinois est évident. Et puis, nous avons bien sûr l'aspect bien plus profond et surtout décisif pour l'histoire de la langue japonaise, l'aspect hiéroglossique, le chinois comme support de la doctrine bouddhique, laquelle est l'axe intellectuel de la relation Wakan. Nous n'y reviendrons pas puisque c'est la matière de toutes nos années de cours. Pour en revenir donc à notre propos, il n'y a pas de contradiction entre les deux dimensions de ces langues référentielles, en particulier du chinois classique. Mais il est important de reconnaître le changement ou l'évolution du rapport entre les deux dimensions tel qu'il surgit à l'époque d'Edo, et plus encore vers la fin de cette époque et l'époque de Meiji. Ce changement ne concerne pas seulement les relations diplomatiques et commerciales entre la Chine mandchoue, mais la Chine des Qing, donc, mais aussi les relations littéraires. Bien que nous ayons des témoignages réguliers au long des siècles de l'intérêt que manifestaient les lettrés japonais pour une reconnaissance venant de leurs pairs chinois à l'égard de leurs écrits, c'est certainement à l'époque d'Edo que cet aspect des relations sino-glossiques peut se concrétiser dans des conditions jusqu'alors inconnues. On sait, par exemple, je donne un exemple entre mille, mais celui-ci, par exemple, que l'un des grands poètes sino-japonais de l'extrême fin d'Edo, Hirose Tanso, n'est-ce pas, Tanso, donc vous voyez qu'il est mort en 1856, c'est vraiment l'extrême fin, qui fut l'un des derniers représentants indépendants, en quelque sorte, de la lignée néo-confucianiste commençant avec Fujiwara Seika, mais qui est aussi l'auteur d'un grand nombre de poèmes de style kanshi, de poèmes de sino-japonais, avait été soucieux de les faire parvenir en Chine par l'intermédiaire des commerçants chinois de Nagasaki, afin de recueillir l'avis des poètes chinois contemporains. Sans grand succès, cependant. Nous verrons au tout début de la semaine prochaine qu'il y a des exemples beaucoup plus éclatants de cet intérêt, direct, en quelque sorte, cosmopolite. C'est dire que le chinois classique, qui avait été jusqu'alors une langue essentiellement écrite au sein d'une relation verticale de transmission de la Chine vers le Japon, tandis que la conversation littéraire se déroulait, elle, dans un milieu avant tout horizontal, celui des cercles lettrés japonais, qui s'était bien sûr considérablement élargi à l'époque d'Edo. Nous ne sommes plus dans le Saint-Germain-des-Prés de l'époque de Heian, n'est-ce pas, la capitale de Heian, de Heian-kyo, étant le lieu où se faisait la plus grande partie de l'activité littéraire. Là, c'est vraiment dans tout le Japon, maintenant, à l'époque d'Edo, qu'elle est développée. Cette relation horizontale n'avait jamais été réellement transversale, c'est-à-dire franchissant les frontières, et elle devient véritablement internationale à l'époque d'Edo. Cela est vrai aussi dans un domaine plus inattendu, celui de la transmission du christianisme. Bien que l'on soit encore très loin d'avoir abordé la question comme il le conviendrait, et à ce sujet, je peux peut-être... Ah oui, il est ici. Je peux vous suggérer au moins la lecture de ce livre de M. Suzuki Norishisa, Seisho no Nihongo, Honyaku no Rekishi, n'est-ce pas, qui est un livre assez factuel où il prend une trentaine. Le japonais de la Bible, histoire des traductions, où il prend justement la traduction d'une trentaine de termes fondamentaux de la religion chrétienne et l'histoire de leur traduction en japonais. Ce n'est pas encore suffisamment étudié, mais de plus en plus nombreux sont les philologues qui prennent en compte l'importance des traductions en chinois classique élaborées au cours du XIXe siècle en Chine par des missionnaires anglo-saxons travaillant en coopération avec des lettrés chinois, convertis ou non. Et cet aspect de la sinoglossie n'est décidément pas sans rapport avec notre enquête. Et même, vous allez le voir, avec le cours de cette année. Je n'en donnerai ici qu'un exemple, mais qui illustre ce rapport de la façon la plus éclatante et qui vient de haut, oserais-je ajouter. Il s'agit de la traduction en chinois du nom de Dieu tel qu'il est employé dans la Bible chrétienne. Je simplifie bien sûr tout cela. De nos jours encore, les discussions ne sont pas closes, du côté chinois, alors que l'on peut dire que la question est réglée du côté japonais. Pour dire Dieu dans le christianisme, on dit Kami-sama, n'est-ce pas, ou Kami-sama. Mais elle est réglée du côté japonais, elle est toujours ouverte du côté chinois, mais grâce précisément à la traduction chinoise. Pour ne reprendre très brièvement, rassurez-vous, l'histoire à partir de Matteo Ricci, n'est-ce pas, début du XVIIe siècle, et on se rappellera peut-être que lors de la leçon de l'an dernier sur la traduction de Logos, n'est-ce pas, à propos de Dogen par Tao, qu'avait fait Matteo Ricci. Il avait traduit le Logos grec, le Verbum, donc par le mot chinois Tao, Michi. Et il retrouvait en quelque sorte une intuition de Dogen qui avait popularisé en japonais la lecture iu de ce terme Michi. Donc Ricci avait proposé pour le Deus des Latins, lui-même le résultat d'un long processus d'assimilation de l'hébreu au grec puis au latin, tout d'abord l'appellation de Seigneur du ciel, Seigneur céleste, Tenshu, c'est pas Tianju en chinois, avant de pencher vers un terme plus ancien, celui de souverain suprême, le souverain d'en haut, Shangdi, Shōtei, qui existait déjà, Jōtei ou Jōtai ou Shōtei, la lecture la plus correcte serait Shōtei, qui existait déjà dans les textes bien anciens chinois. Avec l'activité des missionnaires américains et britanniques qui prit son essor en Chine autour du milieu du XIXe siècle, alors que Tenshu était devenu définitivement la marque de la traduction catholique, les discussions reprirent de plus belle, car l'on reprochait à Shangdi, à Shōtei, donc, d'être l'ancienne appellation de l'être suprême dans la religion chinoise traditionnelle. Si bien que fut proposé un autre terme, a priori surprenant pour les Chinois en raison de la modestie de son signifié, celui de Shan, n'est-ce pas, Jin en Chine ou Jin en japonais, et Kami, bien sûr, en lecture Kun, donc, qui désigne une vaste catégorie d'êtres surnaturels allant de ce que nous appellerions des génies, voire les fantômes, jusqu'aux dieux célestes. Et on connaît par exemple en japonais et en sino-japonais l'expression Jingi, qui désigne Kami, les dieux du ciel, et Shinokami, n'est-ce pas, les dieux de la terre. Et on se rappellera aussi que le nom courant des dieux du bouddhisme, Ten, en général on dit Ten, n'est-ce pas, l'abréviation de Tenjin. Vous avez encore le mot Shin dedans. C'est-à-dire que le terme chinois recouvrait dans une large mesure le champ sémantique de l'anglais God, lui, qui prolongeait lui-même le grec Theos. Et donc il permettait une grande souplesse d'emploi. Mais alors que Shangdi, Shōtei, était d'emblée compris, le seigneur du haut, n'est-ce pas, le seigneur suprême, était d'emblée compréhensible comme appellation du dieu suprême, Shen, Kami, Shin, pour être pleinement compris en chinois, devait être expliqué dans un enseignement préalable en raison des graves risques de malentendus que son emploi peut susciter. Et il faut remarquer que Shōtei, d'ailleurs, revient en force maintenant au Japon, ou en Chine, pardon, Shangdi, dans les éditions les plus récentes. Et vous avez les Bibles chinoises protestantes sont divisées en deux grandes éditions, les Bibles Shen et les Bibles Shangdi, qui diffèrent donc simplement par la façon dont on désigne Dieu, ce qui a quand même une certaine importance. Pendant très longtemps, en tout cas, c'est Shen, donc Shin, qui l'a emporté. Or, c'est sur cette base que les traductions japonaises de la Bible au XIXe siècle se sont élaborées, au terme d'un processus qui rappelle de façon impressionnante ce qui s'est passé avec les textes bouddhiques. On se rappellera peut-être que ce qu'on a appelé d'un terme un peu grandiloquent le siècle chrétien au Japon, donc du XVIe au XVIIe siècle, on n'a pas abouti à une désignation enracinée du nom de Dieu, puisque, vous vous rappelez, on a fini par prendre le mot de Deus. Donc, au XIXe siècle, la seconde vague de christianisme, préparée par le travail en langue chinoise, arriva de façon fort similaire au bouddhisme, tout d'abord par les textes chrétiens traduit en chinois classique, auquel on ajouta simplement les signes de lecture explicative, les kunten, qui permettaient aux Japonais de les oraliser comme n'importe quel autre texte chinois. Comme ces traductions chinoises protestantes, révisées par des lettrés chinois, étaient rédigées dans un fort beau style classique, elles pouvaient être soumises au même processus de yomikudashi que tout texte en kanbun. Pour donner un exemple, je vous l'ai déjà donné, mais il est très utile et très parlant, qui nous intéresse directement dans le cours de cette année, il suffit de donner le prologue de l'Évangile de Jean, selon la version imprimée à Yokohama en 1883 par la Société biblique britannique. Vous voyez, au commencement était le Verbe, n'est-ce pas ? Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Vous voyez que Genshi Hajime ni Michi Ali. Do Ali, Michi Ali, mais là on va le lire en japonais Koto ou Kotoba Ali, et Kotoba Kami, et donc, c'est après que c'est intéressant, n'est-ce pas, le donc Genshini Koto ou Kotoba Ali, Koto ou Kotoba, Kami to Tomonis, et le verbe était avec Dieu, et voyez, et sono Koto Sunawachi Kaminali, et le verbe était Dieu. Et vous voyez que pour, évidemment, tous les Japonais voudront dire ici Michi et pas verbe. Et vous voyez que le kami, c'est aussi le dieu du Japon, les dieux du Japon, mais ici utilisé dans un sens monothéiste. Et vous voyez que dans le prologue de l'Évangile de Jean, révisé révisée par les Chinois, puis lue en Kun, eh bien vous avez Michi et Kami, qui sont exactement les deux termes principaux de l'œuvre de Motori no Inaga. Vous voyez à quel point cette relation sino-japonaise est importante pour voir se dessiner les équivalences linguistiques qui sont en arrière-plan. Contrairement donc à ce que l'on aurait pu penser et estimer que la traduction du God chrétien par Kami, c'est une sorte d'assimilation. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'anglais ou le français ou même le latin. C'est l'assimilation des dieux païens, des dieux japonais, au Kami. Mais cette appellation de Kami n'est pas le résultat d'une confrontation directe entre l'Occident et le Japon. C'est une médiation par le chinois. C'est ce que l'on oublie toujours. Et la plupart des gens qui vous parlent maintenant du kami japonais, du kami chrétien japonais, connaissent une adaptation directe de la notion ancienne japonaise de kami, se trompent. Elle est passée par le chinois. Mais c'est tellement efficace, ce détour a été tellement efficace que tout le monde l'a oublié. Donc cet antique terme religieux qui s'applique aux 800 myriades d'entités surnaturelles, les yaoyorozu no kami, en est venu à désigner le dieu du monothéisme, sens qu'il est à présent le plus souvent dans la conscience linguistique japonaise. La plupart des Japonais, quand vous leur posez la question de kami, penseront au dieu unique et pas aux différents kami, kamigami, n'est-ce pas ? Il y a d'ailleurs, j'avais fait autrefois, en l'an 2000, le premier ministre japonais de l'époque avait fait une... là aussi, nous ne sortons pas de Motori no Inaga en réalité, puisqu'il avait fait du Motori no Inaga en disant que le japonais était Kami no Kuni, le pays des dieux. Le pays des dieux, ça a créé un scandale monumental. Or, à ce moment-là, j'étais au Japon, je faisais des cours dans une université japonaise sur l'histoire des religions. Il y avait une centaine d'étudiants à peu près, et j'ai eu l'idée de leur faire un test, puisqu'en japonais on ne pouvait pas distinguer. Je leur demandais de traduire en anglais le Kami no Kuni, n'est-ce pas? Et 90%, la plupart, ont répondu God's country, n'est-ce pas ? Le pays de Dieu, et pas le pays des dieux. C'est-à-dire que les Japonais même, à qui s'adressait cette proclamation du ministre, ne le comprenaient pas du tout dans le sens du premier ministre japonais, qui lui parlait justement qui faisait une allusion à la vision traditionnelle japonaise, enfin, du Kokugaku. Des études nationales de la divinité, et ces auditeurs japonais le prenaient dans la vision anglo-saxonne. Donc, n'épilonguons pas pour l'instant, sinon pour redire que cet exemple, on ne peut plus religieux, illustre de façon marquante la double dimension cosmopolite et hiéroglossique de la relation wa-kan sino-japonaise, dont les rapports entre les deux dimensions peuvent fluctuer au cours des époques. Il reste que quelles qu'en soient les proportions respectives, le phénomène du wakan, donc sino-japonais, confère à l'histoire de la culture japonaise la plus grande partie de son dynamisme, y compris dans le thème qui nous intéresse cette année. Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue. C'est pourquoi il faut, avant d'en arriver à notre propos, c'est-à-dire à Motori no Inaga, évoquer trois monuments de la langue chinoise classique au Japon, qui vont nous donner une image du cadre à l'intérieur duquel va évoluer la pensée de notre protagoniste, disons plutôt contre lequel il va réagir. La première œuvre à citer est la grande histoire du Japon, le Dainihonshi, que l'on peut traduire d'ailleurs aussi par une ambiguïté savamment calculée, n'est-ce pas, par l'histoire du grand Japon. Commencé en 1657, à l'instigation donc de Tokugawa Mitsukuni, n'est-ce pas, qui était le petit-fils de Tokugawa Ieyasu, qui est connu dans le grand public japonais sous le pseudonyme de Mito Komon, vous savez, le héros d'un feuilleton télévisé japonais qui a duré pendant des années, et qui n'était plus au gouvernement shogunal, mais qui était le seigneur, le daimyo du fief de Mito, qui a été un endroit extraordinairement important pour l'histoire de la culture japonaise de l'époque, qui a d'ailleurs été édité en détail, étudié en détail par Madame Nathalie Kouamé. Je vous renvoie à ses travaux. Et donc, elle est commencée en 1657, elle n'est définitivement achevée qu'en 1906, 2 siècles et demi plus tard, n'est-ce pas ? Ce qui laisse encore de l'espoir pour le Hobogirin, l'encyclopédie bouddhique du Japon dont je suis responsable. Mais la partie biographique était achevée en 1715. Nous n'avons pas le temps d'en détailler les vicissitudes. On pourra se reporter pour cela à la notice du dictionnaire historique du Japon que vous trouvez maintenant sur Persée. Mais relevons qu'il s'agit d'une œuvre immense en chinois classique qui veut s'inscrire dans le sillage des grandes histoires chinoises. Commencée par Mitsukuni, alors qu'il avait à peine 20 ans, elle fut reprise par de nombreux rédacteurs, dont le célèbre Aizawa Seishisai, n'est-ce pas, dont l'un des protagonistes du retour au pouvoir impérial au tout début de Meiji. Il s'agit aussi d'un examen critique des sources historiques japonaises et qui va jusqu'à l'année 1392, c'est-à-dire à la fin de la période Nambokucho, des dynasties du Nord et du Sud, et le début de l'époque Muromachi à proprement parler. Ce qui mérite notre attention est que tous les historiens s'accordent à voir dans ce monument historique d'apparence chinoise, d'apparence extérieure, n'est-ce pas, de conception chinoise, mais dont le contenu s'enracine en profondeur dans les sources proprement japonaises, déplaçant le centre d'attention et de légitimité historique du continent à l'archipel, l'un des axes de développement du kokugaku, ou des études nationales, dont Motori Nanyaga fut bien sûr un éminent représentant. Et l'on n'oubliera pas que Aizawa Seishisai est l'un des promoteurs les plus ardents de l'idéologie du Kokutai, n'est-ce pas, ou de la substance nationale, du corps de la nation souveraine, etc., selon la façon dont on le traduit, et qui fut un terme extrêmement, extrêmement envahissant, je dirais, dans le Japon de toute l'ère Meiji jusqu'en 1945. Nous verrons d'ailleurs bientôt un exemple très concret de la façon dont ce processus de légitimité par la Chine a pu fonctionner. Ce sera au début du cours prochain. Il est vrai qu'entre l'achèvement de la partie biographique du Dai Nihonshi en 1715 et la publication à partir de 1909, et lorsqu'il est publié vraiment selon des critères actuels, il est difficile de savoir dans quelle mesure les parties déjà rédigées étaient accessibles. Mais des portions au moins en étaient déjà xylographiées et donc diffusées. Et les lettrés se rendaient aussi en pèlerinage érudit au fief de Mito, qui était vraiment un grand centre de culture. Ces précisions pour nous expliquer la genèse possible du poème que nous lirons au début de la semaine prochaine et qui vous donnera un exemple très concret de ce que je veux dire ici. D'un mot donc, cette grande histoire du Japon, en renouant avec la grande tradition historiographique chinoise, de langue chinoise même, mais en prenant comme source les traditions japonaises à proprement parler, relance à la toute fin de l'époque d'Edo, et même en pleine époque de Meiji, au moment où la civilisation japonaise traditionnelle va subir un profond remaniement, une refondation décisive qui va la réorienter vers le monde moderne et les vicissitudes que l'on sait, et qui relance une nouvelle dynamique. Nouvelle, cette dynamique, elle l'est sans aucun doute, dans la mesure où tout événement historique ne peut se répéter, pas plus que l'on ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve, mais l'on voit bien qu'elle se fonde sur la réactivation des plus vieilles composantes de la culture de l'archipel. Le deuxième monument qu'il convient d'évoquer n'est sans doute pas commensurable au premier par l'ampleur, mais le dépasse certainement même par l'influence à la fois immédiate et durable qu'il a exercée sur la culture japonaise. Cette influence concerne aussi l'histoire même de la langue japonaise. Il s'agit d'une œuvre historique. Le, euh, le, le Nihon Gaishi, n'est-ce pas, la dernière ligne. Littéralement, Gaishi, ça ne veut pas dire l'histoire extérieure du Japon, mais ça veut dire l'histoire, c'est l'opposé de Seishi, l'histoire officielle, l'histoire contrôlée par le gouvernement. Nihon Gaishi, c'est l'histoire, de même qu'il y a un festival off à Avignon, n'est-ce pas, c'est l'histoire off, en quelque sorte, c'est-à-dire l'histoire qui est rédigée par un individu, et qui n'est pas commandité par l'État, c'est une vision personnelle de l'histoire. Elle n'entrera pas dans les histoires officielles. Et donc, elle est bien plus maniable, elle ne comporte que 22 livres, elle peut circuler sous la forme d'un seul volume, et cette œuvre n'a qu'un seul auteur, évidemment, c'est l'illustre Rai Sanyo, 1780-1832, qui est à la fois penseur confucianisme, poète et historien, et qui est bien sûr nourri, il vient d'une illustre lignée de Kangakusha, et il a été nourri, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais en tant que rejeton d'une famille de spécialistes des études chinoise, il a été nourri dès sa jeunesse d'un livre très important pour l'historiographie chinoise et japonaise aussi, puisqu'on en voit ici les conséquences. C'est ce qu'on appelle en japonais le Tsukanko Moku, ou bien le Shiji Tsukanko Moku, n'est-ce pas, qui est un abrégé fait par le grand philosophe le fondateur du néo-confucianisme, Shushi, n'est-ce pas, ou Shuki en japonais, Jushi, dont vous avez les dates ici, dont les doctrines se sont répandues au Japon à partir de 1600. Je vous en ai déjà souvent parlé. Et donc, Rai Sanyo est le produit de ce renouveau du néo-confucianisme japonais au XVIIe siècle, alors que c'est une doctrine très ancienne au Japon. Ce travail qu'on pourrait traduire par les grandes lignes et détails de l'histoire universelle, n'est-ce pas, c'est un résumé d'un ouvrage encore plus vaste qui a été écrit au XIe siècle sous la direction de Sima Guang, qui est je ne vais pas entrer dans tous ces détails, restons au Nihon Gaishi pour l'instant, qui traite de l'histoire japonaise à partir de la guerre des Minamoto et des Taira, de la fin de l'époque de Heian, n'est-ce pas, jusqu'au début du gouvernement des Tokugawa. Bien que l'on traite le plus souvent de la lignée néo-confucianiste japonaise des idées de Rai Sanyo, l'attention qu'il porte à la légitimité du pouvoir ne peut nous faire penser qu'à une chose, et de même que l'époque qu'il a choisie comme début de son Nihon Gaishi, c'est-à-dire la guerre des Genpei et le début du shogunat de Kamakura, ça vous rappelle sans doute quelque chose, c'est ce qui a motivé la rédaction par Jien du Gukansho, n'est-ce pas, de son essai sur l'histoire, qui est une réflexion justement sur la fin du système impérial et le début du système qu'il voit du système shogunal, le Gukansho qui a été rédigé en 1221 à peu près, 1221-1223, et vous voyez que bien que Rai Sanyo aide soit dans une lignée historiographique chinoise, la façon dont il fait commencer l'histoire moderne du Japon à l'époque de la fin du XIIe siècle, eh bien, ça veut dire qu'il connaissait le Gukansho, qu'il a lu Jien, qu'il a lu les réflexions de Jien sur la légitimité historique, la légitimité de la maison impériale en train de s'effriter à cause de la disparition des trois trésors Shinto, n'est-ce pas ? Enfin, je ne vous rappelle pas tout cela, mais bien que jamais il ne parle de Jien, il est dans la lignée de Jien. Donc, vous voyez que il faut toujours au Japon faire la distinction entre la lignée de surface, la lignée sinologique en quelque sorte, et la lignée nationale en quelque sorte qui est derrière. Ainsi que l'a rappelé le professeur Saito Maréchi dans la conférence qu'il a prononcée au Collège de France en 2018, et ainsi que le souligne encore notre collègue Robert Tuck, cet ouvrage ne concerne pas seulement l'historiographie. Circulant largement à l'époque de Meiji, où ses positions pro-impériales l'avaient bien sûr remis en odeur de sainteté, l'ouvrage rédigé originellement dans un kanbun relativement aisé à lire et qui suit étroitement, sans renoncer de façon outrageante à la correction grammaticale chinoise, le mouvement de la syntaxe japonaise, cet ouvrage fut largement diffusé, non pas en kanbun, en chinois classique, mais sous la forme de kakikudashi, c'est-à-dire donc des éditions en lecture kun, si vous voulez. Et donc, il se présentait comme un texte japonais. Et d'ailleurs, le texte actuellement disponible dans la collection populaire Iwanami Bunko, édité d'ailleurs par un descendant direct de Sanyo, est dans ce style. Ce n'est pas en kanbun, c'est en kakikudashi. C'est donc sous cette forme que le Nihon Gaishi a aussi profondément influencé le nouveau style japonais qui se répandit dans les ouvrages historiques et les essais. On en voit l'un des derniers exemples, ceux qui s'intéressent peuvent s'y référer, c'est très intéressant, dans l'histoire de l'époque d'Edo, Edo Jidaishi, n'est-ce pas, de Mikami Sanji, qui est mort en 39, qui a été réédité aussi dans des collections accessibles, qui est entièrement écrite dans ce style. Donc, à l'instar du Dai Nihonshi, le Nihon Gaishi reprend l'histoire du Japon, là où les histoires anciennes japonaises, n'oubliez pas que nous avions ce qu'on appelle les six histoires nationales, Rikkokushi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ces histoires qui ont été faites, établies grosso modo des environs de 700 aux environs de 900 au Japon, en langue chinoise japonaise, donc en kanbun, et dans le prolongement de l'historiographie chinoise. Donc, vous voyez, ça va à peu près jusqu'à l'époque de Heian, et nos historiens reprennent cela à la fin de l'époque de Heian. Donc, loin de considérer ce passage au chinois comme une reconnaissance de dépendance à l'égard de la culture occidentale, puisqu'il renoue, à la fin d'Edo, on renoue avec cette histoire en langue chinoise, vous voyez. Il y a eu un hiatus de 500 ans, de 500-600 ans, et on repart en chinois, mais ce n'est pas une reconnaissance de dépendance, comme ça l'était d'une certaine façon dans la première époque, à l'égard de la culture continentale. Ces historiens et penseurs japonais, au contraire, estimaient que la mise en chinois classique permettait à leur pays d'accéder à la pleine légitimité historique. Il n'y avait pas pour eux de contradiction entre le concept d'étude nationale, kokugaku, et le fait de les mener en une langue dont le caractère cosmopolite était en quelque sorte sublimé par le caractère hiéroglossique. Il n'est donc pas du tout certain que le choix du kanbun ait été justifié par une nécessité internationaliste, un souci de montrer aux royaumes étrangers, et en tout premier lieu à la Chine, la légitimité du pouvoir au Japon. Pour reprendre l'expression que nous avons utilisée tout à l'heure, il ne s'agissait pas pour eux de nouer un dialogue transversal, mais de poursuivre une tradition verticale, de poursuivre la lignée historiographique japonaise d'expression chinoise qui a accompagné dès l'origine le pouvoir politique au Japon. Un troisième titre qu'il nous faut donner à présent viendra appuyer cette interprétation. Il s'agit à mes yeux d'un ouvrage qui doit être mis en parallèle au Nihon Gaishi pour le rôle similaire qu'il a joué dans l'histoire de la culture comme de la langue. On pourrait en faire un parallèle assez étroit, mais je ne... Bien qu'il soit à présent bien moins important que le Nihon Gaishi pour la place qu'il occupe dans le lectorat japonais, il est encore loin d'être négligeable. Nous pourrions appeler cet ouvrage le Diogène Laërce japonais. Le titre usuel en est Sentetsu Soudan, les récits sur les sages d'antan. L'auteur, j'abrège, j'espère, l'auteur qui est Hara Zen ou Hara Nensai, mort en 1820, très peu de temps, enfin, après Norinaga, n'est-ce pas, appartenait aussi, comme Rai Sanyo, dont il est le contemporain, à une lignée de lettrés confucianistes. Et il conçut un projet historiographique assez original au Japon, dont on ne trouve l'équivalent auparavant. C'est vrai que la préhistoire, l'archéologie, comme on dit, de ce livre est assez délicate. Et il me semble, et je crois ne pas avoir été le seul à faire le rapprochement, qu'on pourrait trouver le meilleur parallèle avec un texte comme le Genko Shakusho, qui est de 1322, vous voyez bien avant, qui est écrit par un moine zen d'ailleurs, Kokan Shiren, qui est une série de biographies bouddhiques japonaises sur les moines, sur les grands religieux bouddhiques japonais, limité au Japon, avec un peu le même plan, c'est-à-dire des données biographiques, des données anecdotiques, des résumés d'ouvrages et de pensées. Enfin, il y a des parallèles assez stricts à faire entre les deux. Donc, dans cet ouvrage sont données la biographie agrémentée d'anecdotes, toujours très intéressantes et enrichissantes, de 72 penseurs, on pourrait parler de philosophes, confucianistes et néo-confucianistes, strictement insérés dans les limites chronologiques de l'époque des Tokugawa, puisque le premier est Fujiwara Seika, donc l'introducteur du néo-confucianisme, qui est mort en 1619, et ça se poursuit avec différents penseurs jusqu'à la fin des Edo, et il y a eu ensuite des continuations qui ont été faites, des suites qui ont été faites et qui nous mènent jusqu'au début du 19e siècle, n'est-ce pas? La suite fut d'ailleurs élaborée par son fils et par un disciple qui va pratiquement jusqu'à la fin des Edo. Et ici encore, le livre rédigé en un kanbun très vivant, regorgeant d'anecdotes et de détails historiques très précis grâce à l'enquête méthodique que fit Hanazen. Et ce n'est pas du tout, ce n'est pas seulement un homme de cabinet, il a vraiment écumé le Japon à la recherche. L'un de ses principaux matériaux historiques était les stèles. Vous savez que dans lorsqu'un lettré meurt, en général les disciples rédigent une très belle stèle en chinois littéraire et avec quantité d'informations biographiques qu'on ne trouve pas ailleurs que sur ces stèles. Donc si on veut faire des recherches sur des personnages peu connus qui n'ont pas été traités dans des biographies imprimées, il faut faire le tour du Japon et recueillir ce qui est sur ces stèles. Ce n'est pas encore fini. Donc c'est un... De même, comme le Nihon Gaishi, à partir de l'époque de Meiji, ce livre fut largement répandu au Japon, non pas en kanbun, dans le kanbun originel, mais en kakikudashi, qui était ainsi accessible à un public bien plus nombreux. Et son importance est d'autant plus grande pour le Japon de l'époque. Alors là, c'est encore une opinion un peu personnelle, mais qu'il a, selon moi, lourdement influé sur le choix du terme sino-japonais destiné à rendre le concept occidental de philosophie. Et là aussi, je voudrais quand même en parler, parce que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, n'est jamais souligné. Je crois que je vous renvoie, par exemple, à l'article de M. Kanayama Yasuhira, The Birth of Philosophy as Tetsugaku in Japan, qui donne de très précieux renseignements, mais qui n'a pas du tout le même point de vue que moi. Et vous pouvez aussi vous référer au beau livre de Michael Luken, Le Japon grec, culture et possession, où il traite un peu du problème. Donc, comme chacun sait, et nous ne pouvons qu'en convenir, le terme sino-japonais moderne, le néologisme, donc Tetsugaku pour philosophie, un concept européen s'il en est, a été établi par le penseur japonais Nishi Amane, dont je vous donne ici les dates. On a même la date exacte, enfin l'une des dates possibles en tout cas, celle de 1877, année où le terme fut employé dans l'établissement du programme de l'Université de Tokyo, qui était alors en cours d'élaboration. Par l'intermédiaire du japonais, et en raison de la parfaite sinité, si j'ose dire, du terme, il passa rapidement entre 1890 et 1895, selon Kanayama, en Chine, puis dans les autres langues sinoglossiques. Là, vous voyez encore le rôle cosmopolite, n'est-ce pas, du chinois. Tout le monde, ou presque, s'accorde sur la traduction de ce binôme, Tetsugaku, par étude de la sagesse. Et on rappelle aussi que Nishi Amane a hésité tout d'abord entre deux possibilités, soit Kitetsugaku ou Tetsugaku. avant de choisir la seconde. Là encore, beaucoup de commentateurs traduisent ou paraphrasent le premier segment Kitetsu comme « aimer la sagesse » et le voient comme une traduction littérale de « philosophia », littéralement donc le fait d'aimer la sagesse. Et ils sont d'ailleurs induits en cela par Nishi Amane lui-même. Malheureusement ou heureusement, les choses ne semblent pas être aussi simples. Et l'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'elles le fussent lorsque l'on a affaire à ces lettrés japonais d'Edo, dont la culture classique dépasse de beaucoup, ce que Nishi Amane était encore, n'est-ce pas, dépasse de beaucoup le maigre savoir de nos générations. Laissons pour l'instant de côté l'élément gaku, dont nous admettrons qu'il est employé systématiquement pour rendre le gréco-latin logis, logia, etc., ou désigner toute science constituée à l'européenne. Mais peut-on vraiment admettre que tetsugaku signifie étude de la sagesse? Nous devons répondre par la négative, tout simplement parce que tetsu ne signifie nullement sagesse en chinois, comme je viens de vous le montrer, n'est-ce pas? Le Sentetsu Sōdan, le titre de l'ouvrage de Hamane, je l'ai traduit par les propos sur les sages d'antan. Donc, ne signifie nullement sagesse en chinois, c'est-à-dire un terme abstrait au-delà des hommes qui le véhiculent, mais désigne avant tout un être humain. C'est en quelque sorte un adjectif substantivé qui signifie le sage, l'homme avisé, l'homme perspicace. Je vous renvoie au grand dictionnaire de Rixi. Ou s'emploie à la rigueur comme verbe au sens de connaître par intuition. Malgré ce que l'on dit, le composé ne peut être mis rigoureusement en parallèle du point de vue grammatical avec son concurrent plus classique qui était rigaku ou étude du principe que nous trouvons encore employé par Nakae Chōmin. Il doit plutôt être mis en parallèle avec l'autre, zugaku, le confucianisme, sur lequel je reviens dans un instant. Et cela, nous le savons aussi parce que la première version du terme, Kitetsu, donc suggéré par Amane lui-même, n'est-ce pas, Nishi Amane lui-même, et Kitetsu Gaku, était faite de l'aveu même de l'intéressé sur le mot chinois ancien, Kiken, que je vous donne juste après Kitetsu Gaku, Kiken, qui ne veut pas dire non plus amour de la sagesse, comme on a tendance à le faire, mais bel et bien, et ici c'est tout à fait enregistré par les lexicographes, n'est-ce pas, aspirer à devenir un sage, ou encore admirer la conduite d'un sage et aspirer à l'égaler. Ce terme rend de plus tout à fait habilement dans cette acception le sens courant que l'on donne à la philosophie, à l'époque du moins, se mettre à l'école de Socrate. Et je renvoie à Lucan pour ce sens. Conformément à l'usage classique chinois, donc, nous avons affaire avec Ken et Tetsu, non pas à des abstractions, mais à des personnes. On remarquera de ce point de vue que Tetsugaku se conforme alors au terme reçu pour confucianisme, Jugaku, ou que d'ailleurs maintenant vous savez que beaucoup d'anglo-saxons répugnent à traduire Ju par confucianisme et veulent garder simplement le mot tel quel, ce mot qui signifie à l'origine non pas confucianisme, mais magicien, ou même acrobate ou clown. Ce serait mésestimer la qualité du savoir en kanbun de Nishi Amane que d'interpréter autrement et selon la Vulgate actuelle le sens premier de son néologisme. C'est donc la science véhiculée par les sages. Donc se pose la question de savoir s'il s'est inspiré d'un précédent philologique pour former son néologisme. On l'aura compris d'après ce qui a été exposé plus haut. Nishi Amane avait à sa disposition, comme tous les lettrés de sa génération qu'il avait étudiés très tôt dans leur cursus, le Diogène Laërce japonais, le Sentetsu Sōdan, dont le mot central Tetsu était suffisamment éloigné de Ken, de l'expression Kiken, qui désignait souvent, en dehors du bouddhisme, où il signifie Bodhisattva, n'est-ce pas ? Le terme Ken pouvait désigner les disciples de Confucius, et au regard du Se, n'est-ce pas, le Saint, qui était le maître lui-même, et il l'a utilisé en même temps pour se distancier du confucianisme, puisque Se, c'était le maître, mais Ken, c'était les disciples, alors que le Sentetsu Sōdan traitait des confucianistes et des paraconfucianistes japonais. Donc il a choisi de réorienter le mot Tetsu du confucianisme au phénomène européen qu'il avait décidé d'importer au Japon. Il y a d'ailleurs aussi une petite quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, le fait qu'il l'ait appelé au début, vous voyez, il a utilisé Kiken et Kitetsugaku avant de laisser tomber le ki. Le ki, le caractère ki qui veut dire koinegao, qui veut dire donc aspirer, hein, et pas aimer, n'est-ce pas, vouloir souhaiter quelque chose. Or, comme vous le savez, c'est aussi le terme qui est la première syllabe en chinois et en sino-japonais du mot de la Grèce. La Grèce en chinois se dit shila, c'est-à-dire hellas, n'est-ce pas, donc shila, et le premier caractère qui est l'abréviation de Grèce. Et Nishiyamane étant un lettré japonais, il ne pouvait pas ne pas tenir compte des différences de strates de sens du mot. Et lorsqu'il a au début employé le mot Kitetsugaku, il faisait d'une pierre deux coups, n'est-ce pas ? Il traduisait en même temps l'aspiration à la voix des sages et en même temps l'aspiration à la voix des sages grecs. Et ça, évidemment, à l'époque, qui veut dire Grèce, n'est-ce pas ? Pour tous ceux qui font du chinois, du sino-japonais. Et je pense qu'il a laissé tomber après parce que c'était peut-être un peu trop gros et surtout ça enfermait la philosophie dans son cadre grec, ce qui n'était contre-productif. Donc, un lettré japonais et chinois de l'époque ne peut comprendre l'expression Kitetsugaku que comme étude consistant à prendre pour modèle les sages de la Grèce. Et ce n'est pas du tout l'amour de la sagesse. Nous voyons ainsi combien les derniers feux de la culture chinoise de l'époque d'Edo, débordant largement sur Meiji, la culture donc qui naît autour de Motoori Norinaga, est importante pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une lutte interne au Japon. Cette culture que l'on pourrait superficiellement qualifiée d'étrangère, la chinoise donc est en réalité utilisée pour approfondir davantage encore l'implantation des sources japonaises classiques. Elle-même surgit, nous l'avons vu au cours de ces années, d'une altération réfléchie des sources chinoises. On pourrait résumer ce processus de la fin d'Edo en une phrase paradoxale: plus c'est sinisé d'apparence, plus c'est japonais en profondeur. Et nous commencerons la semaine prochaine par un exemple qui illustre très bien ce paradoxe, à mon sens. Je vous remercie pour aujourd'hui.